Le journal Adiachipuku.
Merci de vous joindre à nous. Tout de suite, le sommaire. La grève à l'ONATRA s'amplifie. Elle vient de s'étendre à Matadi. Pas d'activité ce matin au port du chef du Bas-Congo. Les agents de cet office réclament entre autres l'entrée en fonction du nouveau comité de gestion mis en place par le ministre des Transports et Communications. Les habitants de la commune de Ndjili à Kinshasa ont désormais un hôpital général dans leur fief. Cet établissement sanitaire, construit et financé par les Chinois, a été remis ce mardi aux mains des autorités congolaises. Au sud Kivu, c'est l'inquiétude des habitants de Bukavu après l'évasion de près de 200 détenus de la prison centrale de cette ville. Cette population craint un regain d'insécurité. Plus de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. La grève à l'ONATRA s'amplifie. Elle vient de s'étendre au Bas-Congo, précisément à Matadi. Pas d'activité ce matin au port du chef du Bas-Congo. Les agents de l'Office national de transport réclament le paiement de leur bonus et l'entrée en fonction du nouveau comité de gestion mis en place par le ministre des Transports et Communications. Dani Kindanzita nous décrit l'ambiance qui a régné ce matin à la place rouge de la gare centrale de Matadi.
Au port international de Matadi, tout était calme cet avant-midi. Bureau fermé, aucun signe de vie de la part des travailleurs de l'Office national des transports. Les 6 bateaux qui se trouvent au quai, faute du personnel, n'ont pu être déchargés de leur cargaison. Le maximum de travailleurs de l'Office national des transports s'est concentré à la place dite rouge devant l'esplanade de la gare centrale, où une fanfare réquisitionnée par l'intersyndicale exécutait des morceaux que ses agents reprenaient à cœur. Avant de reprendre le travail, les agents de cet office demandent la régularisation de leurs primes et le départ de l'ancien comité. Signalons que la patrouille de la police nationale congolaise est déployée aux installations portières pour sécuriser le matériel et le personnel afin d'éviter tout débordement. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Cette demande des agents de l'ONATRA Matadi commence à se concrétiser. La cérémonie de remise et reprise consacrant l'entrée en fonction du nouveau comité a finalement eu lieu. Elle a commencé cet après-midi et devra se poursuivre demain mercredi. Des agents de l'Office national de transport s'étaient réunis depuis ce matin à l'entrée principale de l'ONATRA au centre-ville de Kinshasa pour attendre cette cérémonie. À Kikwit dans le Bandundu, c'est plutôt un malaise qui couve depuis plusieurs mois à l'ISP. Et pour cause, le non-paiement des salaires d'une dizaine d'enseignants, professeurs associés, chefs des travaux, assistants et quelques administratifs de cette institution. Cette situation dure depuis 6 ans. Toutes les démarches initiées auprès du ministère de tutelle n'ont abouti à aucun résultat satisfaisant. De Kikwit, les détails avec Fabien Kambizi.
Engagés régulièrement et employés normalement, ces responsables et pères de famille demeurent jusqu'aujourd'hui impayés voici 6 ans. C'est malgré des contrôles effectués par plusieurs missions initiées par le gouvernement et les rapports du comité de gestion à la hiérarchie. Là où les bas blessent, leurs collègues engagés récemment à l'ISTEM, Kikwit et à l'Université de Bandundu sont payés comme normalement. D'où plusieurs interrogations sur la destination qui prend leur salaire ou sur le mutisme du ministère à ce sujet. Contactez les DG de l'Institut, le professeur Dr Norbert Muyolo-Girumbu, nous a dit que le blocage de la mécanisation des agents se situerait au plus haut niveau de l'hiérarchie, puisque lui-même est sous-payé comme beaucoup d'autres. Professeur Foul, il est payé professeur associé. Kikwit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Toujours au sujet de ce problème de salaire, sachez que les agents et fonctionnaires de Mbujimayi ont également fait entendre leur voix. Ils ont organisé ce matin un sit-in devant le bureau de la mairie. Ces fonctionnaires de l'État protestent contre ce qu'ils qualifient d'injustice salariale entre eux et leurs homologues des autres provinces. Tous les bureaux de l'administration publique de la ville sont restés fermés. Le point avec Emmanuel Elamegi.
Près d'un millier de fonctionnaires du Kasaï Oriental ont déserté le bureau pour envahir la cour de la mairie de Mbujimayi ce matin. Ils ont répondu à l'appel de leurs syndicats respectifs. D'après le coordonnateur du collectif des syndicats de la fonction publique, les fonctionnaires du Kasaï Oriental sont l'objet d'une discrimination salariale. En dépit de toutes les négociations faites à ces propos, ils continuent à toucher moins que leurs homologues des autres provinces, d'où leur réclamation de l'uniformisation salariale pour tous. Ils demandent aux autorités locales de s'impliquer dans la recherche des solutions solution à ces problèmes. Contacté, le vice-gouverneur en charge des questions politiques et administratives du Kasaï Oriental condamne toute forme d'injustice si discrimination salariale il y a. Mais Patrick Baloba ajoute que ces dossiers relèvent de la compétence du gouvernement et du Parlement central. Il appelle ses administrés à reprendre le travail pour ne pas préjudicier des milliers de citoyens qui ont besoin de leurs services. Dembouchimaï, Emmanuel Elameji, Radio Okapi.
Manifestation également signalée à Kananga au Kasaï occidental. Cette fois, ce sont les professionnels de santé qui ont marché. Plusieurs centaines d'infirmiers et autres fonctionnaires de santé ont déposé un mémorandum à l'hôtel de ville et aux bâtiments administratifs. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Au seuil de l'hôtel de ville, leur porte-parole s'est adressé au maire de Kananga. Écoutez un extrait de ses propos recueillis par André Kambala.
Ça fait longtemps où les agents de la santé de la province du Kasaï occidental sont marginalisés par les gouvernements de la transition. Nos collègues de Kinshasa et dans d'autres provinces ont eu droit à la prime, au logement et les transports. Ceux qui travaillent à Kinshasa, même à Lubumbashi, ont bénéficié de l'augmentation des salaires. Jusqu'à preuve du contraire. Dans la province du Kasaï occidental, nous continuons à toucher 1650 francs injustifiables. Depuis le mois de novembre 2005, nous nous sommes adressés au gouvernement de la transition. Jusqu'à présent, sans suite favorable.
Le gouvernement congolais vient de prendre possession d'un nouvel hôpital à Njili, une commune de Kinshasa. Cet établissement sanitaire a été construit et entièrement financé par la coopération technique chinoise. Coût total de l'ouvrage, 48 millions de yens, soit l'équivalent de 6 millions de dollars. Les travaux ont duré un peu plus d'une année et demie. La remise officielle de l'hôpital général de Njili a eu lieu ce mardi en présence du vice-président chargé de la reconstruction et du développement, Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Jacques Matonde nous présente ici cette nouvelle institution hospitalière.
Situé au quartier 7 de la commune de Njili, l'hôpital de référence de Njili dispose d'une capacité de 150 lits et est doté d'un équipement médical moderne, notamment le scanner. Selon l'ingénieur Kisalai, délégué congolais à pied d'œuvre, cet hôpital vient soulager la population de l'est de la capitale, celle de Njili Massine Kimbanteke, estimée au tiers de la population de Kinshasa, étant donné que les grands centres hospitaliers se trouvent concentrés à l'ouest de la ville. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, l'hôpital de Njili est l'un des plus importants de la sous-région des Grands Lacs de par sa capacité et sa modernité. Plusieurs services y sont organisés, la pédiatrie, la gynécologie, la maternité, la radiologie et bien d'autres. L'initiative a été saluée par la population. Certaines personnes ont émis le vœu de voir les frais hospitaliers être à la portée de leur bourse. Initialement prévu pour 13 mois, les travaux de construction de l'hôpital ont duré 19 mois en raison des perturbations de l'énergie électrique, ont indiqué les constructeurs.
Restons à Kinshasa avec l'affaire Coutinho-Fernando. Le tribunal militaire garnison de la Gombe renvoie à demain mercredi la prochaine audience sur cette affaire. Ce renvoi est dû à l'absence du pasteur Coutinho dans la salle d'audience pour un problème de santé. L'audience de ce mardi a donc été consacrée à l'écoute du rapport médical sur l'état de santé du pasteur Coutinho-Fernando. Selon ce rapport établi par le médecin légiste du camp Kokolo, l'état de santé du pasteur n'est ni en danger, ni préoccupant et donc bon. Le même document qualifie de diplomatique la maladie du pasteur. Tout en s'appuyant sur ce rapport, le ministère public parle d'un refus de comparution du prévenu, refus dont les sanctions sont prévues par la loi. Du côté de l'accusé, le conseil des avocats du pasteur Coutinho campe sur leur position. Pour ses avocats, le prévenu est dans l'indisponibilité de comparaître. Il exige une contre-expertise de l'examen médical. On écoute l'un des avocats du pasteur Coutinho, Maître Guy Katumbay.
C'est étonnant parce que nous avons été en contact avec notre client, nous l'avons vu très malade et dire qu'il fait une maladie diplomatique, pensons quand même que le médecin sente aller un peu très loin, mais c'est assez complaisant de le dire et le moment venu, nous allons solliciter une contre-expertise avec espoir que cette fois-ci, nous tombions sur des médecins beaucoup plus professionnels. Ah, vous savez madame, en matière de santé, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les minutes qui suivent ou ce qui se passe dans les jours qui viennent. Donc, on va attendre. Si notre client est en mesure de comparaître, il va comparaître. Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si demain il continue à être malade et qu'il ne saura pas comparaître, il ne va pas comparaître. Et cela n'en déplaise à ces rapports de complaisance des médecins et puis à la position du ministère public.
Des propos recueillis par Mimi Ngumba Mulongo et Emencia. Pour rappel, l'audience de la semaine dernière avait été reportée pour non-comparution des prévenus. Direction Bukavu, avec cette inquiétude des habitants du chef-lieu du Sud-Kivu, ces derniers craignent un regain d'insécurité après l'évasion de 192 prisonniers de la prison centrale de Bukavu dimanche soir. Parmi ceux qui se sont évadés, une majorité étaient des militaires et certains avaient été arrêtés lors des opérations de sécurisation de la ville de Bukavu. Le point avec Didas Namujimbo.
On se demande d'abord comment 200 personnes peuvent s'échapper d'une prison qui se trouve au milieu d'une ville. Nous, les habitants de Mungu, comme on a déjà été victime de ces gens qui ont fui la prison, on se demande s'ils ne vont pas encore venir nous attaquer. Nous avons peur.
Ils sont nombreux, les habitants de Bukavu, qui, comme cet intervenant, craignent un regain de l'insécurité après l'évasion spectaculaire de dimanche dernier. Lors de l'évasion, 4 armes ont été saisies. Mais selon le commandant de la 10e région militaire, Jean-Pierre Moya, une vingtaine de détenus a déjà été interceptée et l'armée va se déployer dans certains quartiers. Au sujet des 4 armes volées, le général Moya réplique qu'il s'agit d'un nombre insignifiant par rapport aux armes qui circulent entre les mains de la population. En tout cas, 2 jours après cette spectaculaire évasion, on ne sait toujours pas pourquoi il n'y avait que 5 gardiens ce soir-là au lieu de 14 habituellement prévu. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
Quittons le sud Kivu pour le nord Kivu, à Mouzienene, une localité située à 17 km de Butembo. Deux couvents de frères et prêtres catholiques ont été victimes de vols dans la nuit de lundi dernier. Les voleurs, armés de machettes et de fusils, ont tabassé les prêtres avant de les dépouiller de leur argent et certains biens matériels. La police locale a entamé des enquêtes pour arrêter les auteurs de ce forfait. Correspondance de Butembo avec Étienne Mouhindo.
Le bilan du vol perpétré dans la nuit de dimanche à lundi dernier au couvent des frères assomptionnistes et des prêtres de la paroisse de Moussienene est de plus de 800 dollars en espèces, un ordinateur et un cellulaire emportés. Au chapitre des dégâts humains, un des frères souffre de nombreuses contusions suite aux coups reçus de la part des bandits. Ce blessé a été transféré ce lundi matin à l'hôpital de référence de la place pour des soins appropriés. La peur est grande dans les camps de frères et prêtres de Moussienene, déclare le frère principal, avant de préciser que leurs couvents sont érigés à 4 km de poste de la police, capable de leur venir en aide à cas d'attaque. Le commandant de la police de son côté reconnaît que ces hommes sont mal équipés pour sécuriser toute la population de Moussienene et ses biens, faute de moyens de communication et de transport. Étienne Mwindo, Butembo, Radio Okapi.
Et puis 2800 kilos d'engins explosifs ont été détruits la semaine dernière au Bazuélé, dans la province orientale. Bilan fait par une équipe de l'ONG Handicap International. Cette opération a eu lieu à Bouta, Kolé et Banalia, territoire situé au nord de Kisangani. Selon l'ONG, il y aurait encore des opérations à mener dans la périphérie de ces trois territoires. Mais de quoi étaient constitués les engins détruits? Le conseiller technique à Handicap International, Marc Renquette, répond au micro d'Anselme Massoua.
Généralement, il y avait des mortiers de différents calibres, il y avait des roquettes PG-7 et il y avait quelques obus artillerie et aussi mines anti-chars et grenades à main. Le stock était vraiment un danger pour la population. Sur le passage direction Bouta, la population de Banalia nous a signalé qu'il y avait à Banalia aussi une mine anti-char à 10 km hors du centre-ville. Et nous, on a jugé, même ça ne faisait pas partie de notre mission de Bouta et de Kolé, mais on a quand même jugé que pour la sécurité de la population, on avait le moyen d'intervenir aussi sur cette mine anti-char et on a donc fait l'intervention nécessaire.
Bouclons cette page nationale en Ituri, 44 réfugiés congolais, dont 24 femmes et 12 enfants en provenance du Soudan, sont arrivés ce mardi à Bunia. Ils seront pris en charge par l'ONG internationale Oxfam Québec pendant 4 jours avant de rejoindre leurs familles respectives. Selon un responsable de l'Oxfam, en plus d'un kit de vivres à remettre à chaque famille, les adultes auront chacun 100 dollars et 50 dollars pour les enfants. Actualité internationale à présent, les communications téléphoniques locales et vers l'étranger sont paralysées depuis le début de la semaine au Nigeria. Cela est dû à la grève observée par les employés de l'opérateur public Nitel pour des questions salariales. D'après le porte-parole du gouvernement nigérian, le ministre des Communications Cornelius Adebayo a appelé ses employés à reprendre le travail alors que des efforts sont faits pour payer les arriérés de salaire. Et puis une délégation d'eurodéputés se rendra aux Canaries du 8 au 10 juin pour se rendre compte de la situation sur les îles espagnoles qui font face à une vague d'immigrés clandestins venus d'Afrique de l'Ouest. Selon un député britannique, le but de cette visite est d'obtenir de plus amples informations sur l'immigration illégale, d'en analyser les raisons et les conséquences. C'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.